17h42, il y aura un gros match ce soir à la place TD. Évidemment, c'est le Rouge et Noir qui sera en action contre, pas à la place TD, en fait, au stade, oui, au stade BMO.
Exactement, BMO Field de Toronto.
Je m'en vais avec mes affaires. C'est à Toronto contre les Argonauts. Le Rouge et Noir qui va tenter d'en gagner une troisième de suite. Il va s'agir du match de la deuxième meilleure défensive de la Ligue canadienne contre la deuxième pire attaque. Est-ce que ça veut dire en sorte qu'on s'attend à un match à sens unique et que le Rouge et Noir devrait gagner? Notre spécialiste est là, Marc Legault, commentaire sportif. Salut Marc!
Salut Mario!
Alors, tu t'attends-tu à une victoire à sens unique?
Non.
Alors, tu dois des explications.
Moi, je m'attends que oui. Excuse-moi, là, je sais que tu avais un bon préambule, les recherches, tout était fait, mais non, pas tout, ça sera pas comme ça.
Comment ça va arriver de bon?
Ben, c'est parce que si on se fie au dernier match du Rouge et Noir d'Ottawa, ils ont bien joué. La défensive fait le travail, tu l'as dit, deuxième rang dans la Ligue canadienne de football. Ça va très bien, mais du côté de l'attaque, on piétine un peu dans le sens qu'on n'est pas capable d'aller dans la zone payante. On se contente de placement de Lewis Ward. Et, écoute, il y en a eu 12 au cours des deux derniers matchs. C'est pratiquement tous les points. Et Lewis Ward, depuis le début de la saison, je pense qu'il a 63 points à lui seul. Et l'attaque du Rouge et Noir en a 54 ou 50. Là. Fait que ça te donne une idée que c'est pas normal, là. Ton batteur n'est pas supposé avoir plus de points que ton attaque comme telle. Donc, pour ces raisons-là, je m'attends à un match serré, mais surtout parce que les Argos de Toronto, ce sont les champions défendants de la Coupe Grey. Ils ne sont pas dans le trouble encore parce qu'ils jouent dans la pauvre division Est. Mm-hmm. Donc, ils sont juste à deux points du deuxième rang. C'est loin d'être la panique. Mais s'ils veulent terminer au premier rang, puis on le sait, c'est important au football canadien, si tu termines au premier rang, tu as la finale de l'Est chez vous, tu as juste à gagner un match à domicile et tu t'en vas à la Coupe Grey. S'ils veulent avoir un match comme l'an passé, ils ont eu la finale de l'Est, ils doivent gagner ce soir. Sinon, on oublie ça, le Rouge et Noir sera déjà trop loin. Et honnêtement, je m'attends à ce que les Argos sortent tellement fort, puis je sais que c'est un carrière qui a jamais débuté un match dans la Ligue canadienne de football, McLeod, Bethel, Thompson. Je suis vraiment content qu'il joue. C'est un nom qui va être super le fun à dire ça pendant tout le match ce soir, mais ça, c'est une autre histoire. Mais le gars, c'est un vétéran. Il y a une trentaine d'années. Il a roulé sa bosse. Je pense qu'il y a, environ 6 équipes de la NFL qui ont fait appel à ses services. Il n'a pas nécessairement joué dans la NFL, mais souvent, il était retranché et la même équipe allait le rechercher l'année d'après. Donc, c'est un signe. Ça veut dire qu'il y a des atouts. Je sais qu'il a un excellent bras. Comment ça va se transposer dans le match, je ne sais pas, mais il y a eu un bon camp pré-saison. Mais ce que je veux dire, c'est que les Argos sont tellement au plancher qu'ils n'ont pas le choix de jouer avec l'énergie du désespoir déjà à leur septième match de la saison. Et tandis que du côté du Rouge et Noir, je te dis pas qu'on va prendre ça à la légère, au contraire, mais on est sur une bonne lancée, puis tout ça pour dire, je pense pas que le Rouge et Noir perd. Je m'attends à une victoire du Rouge et Noir, mais je m'attends à un match très serré.
OK, pas à sens unique, comme je le disais tantôt, mais est-ce que c'est Trevor Harris, est-ce que c'est parce qu'on quand on dit qu'on ne complète pas tout à fait ses passes, quoi, il est à 65% à peu près, c'est-tu parce que c'est lui le responsable, tire pas aux bonnes places, ou c'est les receveurs de passes qui l'aident pas?
Bien, si on revient lors du match contre les Lions de la Colombie-Britannique, on aurait peut-être pu mettre le blâme sur Trevor Harris. Ça a été plus difficile dans la zone payante, mais la semaine passée à Hamilton, ce n'est pas sa faute. Un, il y a eu beaucoup de pression, puis deux fois, il a lancé des ballons dans la zone de début, entre autres Greg Ellingson, qui, au cours des dernières années, nous a montré qu'il devait capter ces ballons-là. Et Ellingson, lorsqu'il a un ballon dans les mains, il ne l'échappe pas. Et là, c'est ce qu'il a fait dans la zone de début. Ouais. R.J. Harris, lui, courait, et il a juste couru un peu trop loin. Il a dû tenter de capter le ballon du côté opposé d'une seule main. Il a échappé un ballon aussi dans la zone de début. Ça, c'est deux touchés, ça, qui auraient dû avoir lieu. Puis ça change l'allure du match. Là, tu rajoutes des points. Le Rouge et Noir aurait marqué une trentaine de points. Personne n'aurait critiqué l'attaque. Mais la semaine passée, ce n'était pas Trevor Harris qui était à blâmer, pas du tout.
À suivre, j'ai hâte de voir ce match-là ce soir. On en reparlera bien sûr demain matin. On va plutôt s'attarder cette fois-ci sur les sénateurs. Là, écoute, c'est cette semaine, c'est quoi le deuxième Mark Stone qui s'en va en arbitrage après Cody Ceci?
Oui, vendredi, puis les demandes, c'est même pas proche. On parlait de Cody Ceci hier, qui demandait 7 millions, puis que les sénateurs lui offraient, je pense, c'est 3,3 millions. Donc, il y avait une très, très grosse différence. Puis c'était de bonne guerre. Là, on joue là-dedans pour que l'arbitre tranche en deux, puis qu'on ait un salaire plus élevé du côté du joueur. Sauf que hier, on a appris que Mark Stone demandait 9 millions de dollars par saison. Puis...
Mais Mark Stone, c'est le cœur des sénateurs.
Je sais, puis c'est ça, je m'en ai dit, il n'est pas loin de ça, Mario, sauf que il n'est pas à ce niveau-là encore. Quand on regarde, puis c'est des comparatifs dans la Ligue nationale de hockey, c'est ça le problème. Tu te compares à d'autres joueurs, Et il y a plusieurs joueurs des joueurs vedettes qui ne font pas ce salaire-là. Donc, quand tu t'approches du 9 millions, tu t'approches du top 10 de la Ligue nationale de hockey. Puis Mark Stone, oui, il est bon, mais je suis pas certain qu'il est rendu là encore. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais t'as raison, c'est le meilleur attaquant des Sénateurs d'Ottawa. Depuis qu'il est là, il était constant, il était régulier, ça va très bien. Mais sais-tu quoi, j'ai l'impression, puis c'est là, moi, que ça m'achale un peu. Les Sénateurs auraient dû s'entendre avec Marston. Avant même d'aller en arbitrage, c'est Sylvain Saint-Laurent qui mentionne la même chose dans le quotidien Le Droit ce matin, puis avec raison. C'est ton meilleur joueur, c'est un gars qui est impliqué dans la communauté, c'est probablement ton futur capitaine. Laisse pas les choses dégénérer comme ça. Tu t'aurais dû t'entendre. Puis oui, t'aurais dû donner peut-être un peu plus d'argent à Mark Stone pour le garder dans l'une. Comme je dis, t'as besoin d'une nouvelle positive. Ça fait un an qu'il n'y a rien qui se passe du côté des Sénateurs. T'as besoin de quelque chose de positif. Puis là, c'est pas le cas encore une fois. Mais du côté du clan Stone, j'ai l'impression. Tu sais, Mario, je te donne l'exemple, là. Quelqu'un, là, qui a des problèmes d'argent, qui est dans le trouble par-dessus la tête, puis tu sais qu'il est dans le trouble. Mm-hmm. Puis qui va te vendre, il va te vendre sa voiture, puis sa voiture, elle vaut 25 000 $ là. Mais il est tellement dans le trouble que tu vas y en offrir 10 000.
Puis il va l'accepter.
Tu sais qu'il va l'accepter parce qu'il n'y a pas le choix. Je trouve ça profiteur. Et Mark Stone, j'ai l'impression que le clan Stone a profité du fait que les Sénateurs, ils savent qu'ils vont probablement perdre Carlson. Il y a rien qui va bien. C'est toutes des mauvaises nouvelles. J'ai l'impression qu'on a demandé plus haut en sachant que les Sénateurs avaient besoin de quelque chose de positif, devaient annoncer quelque chose de bon, puis on l'a pas fait. Puis j'ai l'impression qu'on a tenté de profiter de la situation des Sénateurs, ou tout simplement, et ça serait dommage, on veut rien savoir de demeurer à long terme du côté de Stone avec les Sénateurs d'Ottawa, ce qui fait en sorte qu'on demande absolument n'importe quoi.
Pour avoir
cette année, on va jouer notre contrat d'un an, puis on va sacrer notre camp par la suite. Même chose avec Carlson. Puis évidemment, ces deux-là s'en vont. Est-ce que Duchesne va rester? Ben non, il va s'en aller lui aussi. Fait qu'il n'y aura plus rien à Ottawa.
Écoute, c'est difficile de blâmer les Sens dans ça, mes yeux. Oui, je comprends quand tu dis on demande beaucoup du côté de Stone. 9 millions, les Sens en offrent quoi? 5? Probablement qu'on peut trancher à 7. Puis je trouve que c'est à peu près là qu'on aurait dû aller du côté du clan Stone. Je sais pas, toi?
Ben non, je suis d'accord avec toi. C'est ça, je te dis, je trouve que du clan Stone, on a profité un peu de la situation des Sénateurs, mais pourquoi on s'est pas entendu avant? C'est ça le problème. C'est clair et net. Puis qu'on lui donne le 7 millions ou le 7,5 millions à Stone pour un an, au moins, il n'y aura pas eu d'arbitrage, puis il y a encore le temps de s'entendre. Là. Ça peut se faire aujourd'hui, mais ça me surprendrait beaucoup. Mais ce qui est plate, c'est que je me souviens pas que j'ai dit quelque chose de positif du côté des Sénateurs d'Ottawa, puis ça fait tellement longtemps. Donc, de ce pas, je cours m'acheter des billets de saison. Les Sénateurs, c'est vraiment vendeur. Écoute, ça me donne le goût tellement. Là.
Ce qui est positif, c'est qu'on a décidé qu'on a enlevé les rideaux noirs cette année. Bon, est-ce qu'on va remplir les bancs en arrière? Ça, c'est moins sûr.
C'est sûr, moi, avoir des beaux bains, ça va être intéressant.
Salut Marc, bonne journée et bonne soirée ce soir pour le football. On se parle demain matin.